partenariat officiel entre RCJ et Cannes Israël en français. RCJ, média du FSJU, et Cannes en français, la radio publique israélienne, partagent leurs programmes. Pour être encore plus près de l'actu en France et en Israël et en France, restez branchés. Téléchargez l'application mobile gratuite de RCJ pour écouter Cannes Israël en français, avec le concours du FSJU France-Israël.
J'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne aujourd'hui Jonathan Eckenbaum, qui est directeur de Greenpeace Israël, ce mouvement écologique international. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Alors Jonathan, aujourd'hui, j'ai cherché à vous joindre et à vous donner la parole par rapport à cette catastrophe écologique qui se déroule en ce moment sur nos plages en Israël. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire la situation telle qu'elle est actuellement ?
Oui, avec plaisir, Emmanuel. Alors, tout a commencé il y a un peu plus d'une semaine. Alors, je vais même vous la raconter même dans l'ordre. Alors, ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'on a vu apparaître à partir de mercredi des nappes de mazout de plus en plus nombreuses sur les plages israéliennes. Et petit à petit, on s'est aperçu que ces nappes de mazout, elles sont du sud au nord, c'est-à-dire sur une étendue immense, quasiment 150 kilomètres de bord de mer, depuis à peu près Rishon LeZion au sud jusqu'à Nahariya, Rosh HaNikra, c'est-à-dire jusqu'au nord d'Israël, et ça va peut-être probablement aussi sur certaines côte du sud Liban. Eh bien, après avoir fait une enquête, le ministère de l'Environnement a rapidement enquêté sur le sujet. Et alors, il semblerait que l'origine soit un navire, donc un navire pétrolier, qui se situait à peu près à 50 km des côtes, au sud, et qui a libéré une cargaison de pétrole dans la mer. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Bon, il y a bien sûr énormément de navires pétroliers qui sont en Méditerranée. Ils approvisionnent l'Europe en pétrole en passant par le canal de Suez pour l'essentiel. Et là, alors ce pétrolier-là se trouvait pas dans les eaux territoriales d'Israël, mais ce qu'on appelle dans la zone économique d'Israël, donc il peut voyager là-bas librement. Et souvent, les pétroliers ont besoin ils changent de type de pétrole, donc ils transportent parfois un pétrole plus lourd, plus léger, d'une certaine qualité. Et ils doivent nettoyer en fait leur pétrole, et ils font ça, ils sont censés faire cela, d'après bien sûr des accords internationaux qui ont été signés, ils sont censés faire cela dans des endroits très confinés, parce qu'on parle beaucoup de confinement en ce moment, dans des endroits très confinés et très sécurisés. Puis a priori, donc on ne sait pas encore tout à fait, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, et on a là affaire à un acte criminel d'un pétrolier qui a libéré des quantités très importantes. Alors par rapport à ça, donc il a libéré du pétrole, a priori un type de pétrole assez dense, assez lourd, ce qui fait que en faisant son chemin jusqu'aux côtes, eh bien ce pétrole devient de plus en plus, on va dire, de plus en plus solide, de moins en moins liquide, et puis à la fin on a cette substance qui est du goudron finalement.
Alors quelle est l'origine de ce pétrolier ?
On ne sait pas encore exactement. Ce qui s'est passé, c'est que le ministère de l'Environnement israélien a pris contact avec les autorités européennes, et ils ont fait des recherches satellites. Mmh. Et en faisant ces recherches satellites, ils ont repéré une petite tache noire située à peu près au niveau d'Ashkelon, d'Ashdod, à une cinquantaine de kilomètres du bord de mer israélien. Cette petite tache noire, les bateaux ont tous un suivi, donc on sait plus ou moins à quel bateau ça correspond. Il y avait différents candidats, donc à peu près 8-9 bateaux qui considéraient comme pouvant être à l'origine de cette tache noire. Finalement, a priori, maintenant, il y a un bateau vers lequel le ministère de l'Environnement, vers lequel il cherche à savoir exactement qui c'est, ce qu'il a fait et pourquoi. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On ne sait pas encore quel bateau, on ne sait pas non plus quel pavillon il porte, ce bateau. Mm-hmm. Est-ce que c'est un bateau israélien ou est-ce que c'est autre chose ? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Mm-hmm. Ce sera effectivement intéressant. Elle va se poser, bien sûr, la question de la... puisque si c'est un bateau israélien, c'est très facile, hein, parce que ça relève du droit israélien. Mais si c'est un bateau qui porte un pavillon étranger, ça peut être plus compliqué de faire valoir et de.
Surtout que ça doit prendre du temps de nettoyer ses cuves, etc. Donc le bateau a dû quand même être repéré assez rapidement. Ça paraît un peu surprenant. Et puis si près des côtes, à 50 km, c'est rien du tout, Jonathan.
Oui, Emmanuel, par rapport à ça, 50 km, d'un côté, c'est rien du tout. Mais alors. 50 kilomètres, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Ouais. C'est-à-dire que il y a rien qui patrouille. C'est-à-dire l'armée israélienne ou les autorités, la marine israélienne n'a pas vraiment de patrouille là-bas. Il n'y a pas une grosse présence. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup plaint, les organisations de protection de l'environnement. La mer, c'est un peu la grande poubelle. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment, quand c'est tout près, quand l'usine est tout proche des endroits où habitent les gens, comme à Haïfa, par exemple, c'est déjà compliqué, mais on peut sans arrêt pointer du doigt et dire, voilà, là, il y a un problème, vous devez vous en occuper. Quand c'est dans le désert, c'est beaucoup plus difficile. Quand c'est dans la mer, c'est encore plus dur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le bateau, il a son processus de nettoyage. Il a besoin de se vider. Et donc, il a ouvert ses cuves en pleine mer. Il les a vidées. Ils ont des systèmes pour faire entrer de l'eau de mer, et puis pour se vider encore et nettoyer tout ça. Et puis voilà, ensuite la tâche s'est formée. Personne ne fait de suivi, en temps réel, et dire oh là on a une tâche, il faut vite agir. Et donc on découvre ça uniquement une fois que le mazout s'est entassé sur les bords de mer. Il est important de dire que c'était assez facile c'était facile de trouver l'origine parce que on connaît le sens des courants. Le sens des courants en Israël, eh bien, c'est du sud vers le nord. Donc, donc ça, si vous voulez, l'eau et les sédiments qui viennent d'Égypte vont vers, ils remontent la bande de Gaza et puis de là remontent vers Israël et vers le Liban. Donc comme ça, on se passe un peu tous la pollution, si vous voulez. Hein. Mm-hmm. Nous, ce qu'on pollue, ça va vers le Liban. Ce que les Palestiniens polluent à Gaza, ça vient chez nous. Comme ça, on est tous contents. Et grâce à la direction des courants et à l'amplitude aussi, puisqu'on sait que c'est de Ashdod de Rishon LeZion jusqu'à Naria au nord, eh bien on a su assez facilement repérer l'origine, voilà l'épicentre, on va dire, de cette tâche, de cette pollution. Mm-hmm. Et à partir de là, c'était un peu plus facile, non seulement l'origine, mais on a pu déterminer par une modélisation assez simple, puisque c'est arrivé à partir de mercredi sur les côtes, on a pu déterminer quand est-ce que d'où ça venait et quand ça avait été émis. Mm-hmm. À partir de ce moment-là, voilà, l'enquête peut avancer.
Alors,
de manière satisfaisante.
Je rappelle juste que jeudi, on a découvert une baleine, un léviathan, hein, qui s'est échoué mort, complètement intoxiqué par ce goudron sur la côte de Nitzanim, si je ne me trompe pas. Alors, la première question qui nous vient tous à l'esprit, c'est est-ce que cette pollution est dangereuse pour l'homme, puisqu'elle l'est déjà pour les animaux, pour la faune aquatique. Est-ce qu'elle est dangereuse pour l'homme, à savoir que ce week-end, il faisait très beau, qu'on a vu sur les plages d'Israël beaucoup de monde et des enfants en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?
Oh, c'est très simple. Alors, d'abord, pour la baleine, effectivement, on a pensé au départ qu'elle avait été victime de cette pollution au pétrole. A priori, ça semble maintenant exclu.
Ah oui.
Oui, ça semble maintenant exclu du fait que ils ont pris des restes de la baleine, ils les ont analysés et il semblerait que la baleine soit morte avant. Soit morte avant et donc soit morte d'autre chose. Donc on aurait là ce qu'on appelle un mauvais concours de circonstances. Mm-hmm. Ce n'est pas totalement exclu que ce soit à l'origine de ce pétrole, mais a priori ce n'est pas la piste qui est retenue maintenant, d'après les analyses qui ont été faites. Cependant, alors on a cette baleine énorme qui a été retrouvée 18 mètres et je ne sais pas combien de tonnes, mais on a retrouvé des tas d'animaux, donc des tas de, alors des oiseaux, mais surtout beaucoup de tortues qu'on a retrouvées, des tortues mortes qui sont des espèces qui sont en danger, et bien sûr également, donc, comme j'ai dit, des oiseaux marins et des poissons qui ont été affectés par cette forme de pétrole qui est très dense et donc très collante et dont il est très, très difficile de se débarrasser. Pour les humains, eh bien, il y a en fait deux dangers. Le premier danger, il est si on marche ou si on touche ce pétrole, c'est pas quelque chose qu'il faut toucher avec les mains. C'est toxique et si on touche ça, eh bien, il faut se nettoyer, et puis de toute façon, il faut prendre les précautions et éviter de le toucher. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'une telle pollution au pétrole peut affecter et a peut-être déjà affecté les usines de désalinisation, de dessalement en Israël.
Ah oui.
Une à Ashkelon, une à Hadera. La plupart de l'eau que l'on boit en Israël, mais avec laquelle on se douche, mais qu'on boit essentiellement, c'est de l'eau qui provient d'usines de dessalement. Alors, où est le problème? Où est le hic? Eh bien, c'est qu'il y a des analyses qui sont faites tous les jours dans ces usines de dessalement. Mais ce sont en général des analyses faciles, c'est-à-dire des analyses de microbes. On cherche la présence de microbes, on voit qu'il n'y a pas de microbes, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'avec le pétrole contient, c'est un hydrocarbure, il contient des molécules qui sont extrêmement volatiles, extrêmement petites, et rien ne garantit que ça ne passe pas les membranes des usines de dessalement. Mm-hmm. Et c'est là qu'il y a un danger, et c'est là qu'on demande. Alors, a priori, ce qui semble logique, c'est que le danger, cette pollution au pétrole cause l'arrêt de ces usines de dessalement. Ça, c'est évident. Ça veut dire s'il y a trop de pétrole qui tourne autour, alors ça cause l'arrêt. Mais la deuxième question qu'il faut aussi vérifier, c'est la possibilité, finalement, quand une eau polluée rentre, et bien que tous les éléments polluants ne soient pas exclus une fois et que finalement qu'on absorbe une eau qui aurait, mais dans des dilutions quand même assez petites, mais quand même, qui aurait des éléments qui sont des éléments chimiques plus qu'indésirables.
Et là, donc, vous parlez de l'eau de notre robinet, hein, de la douche, oui. De la cuisine, etc.
Oui, 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 absolument, c'est de ça que je parle.
Et donc, vous avez interpellé le ministère de la Santé à ce sujet ?
Qui on interpelle pas. Avec le ministère de l'Environnement, ça fait des années qu'on demande et qu'on réclame. D'abord, on demande et on réclame de renforcer les prérogatives, les pouvoirs et les budgets du ministère de l'Environnement, notamment pour faire face à de tels événements qui se passent dans la mer, pour les arrêter avant qu'ils n'arrivent aux côtes, parce que la côte, c'est à la fois, c'est à la fois les bords de mer, donc la possibilité des gens d'aller se baigner, mais ça, c'est presque le problème le plus petit de tout ça. C'est la faune et la flore marine qui se trouve essentiellement au bord de mer, c'est là qu'elle est la plus riche, et puis c'est les usines de dessalement qui sont, elles, un intérêt stratégique. Donc finalement, c'est toujours pareil, ça tourne toujours autour du ministère du Trésor, qui ne libère pas les budgets qu'il faut par rapport à ça, bien que ça fait longtemps que c'est réclamé.
On a le sentiment
puis, là,
que c'est un...
le ministère de la Santé.
On a le sentiment que c'est pas vraiment un sujet qui intéresse les politiques en Israël, l'environnement et l'écologie.
Oui, alors là, vous avez tout à fait raison. Et alors, je vais vous citer des données qui sont assez hallucinantes, qui ont été publiées dans des sondages récents. Mais ce qu'on constate, c'est que, Israël est par rapport à ça un peu différent. On le voit dans des pays, par exemple, de manière générale, on a vu, par exemple, même aux États-Unis, où, bon, avec Trump, c'est pas vraiment un écologiste, pas du tout, du tout. Mais malgré tout, étant essentiellement grâce à Biden et Harris, le sujet de l'écologie est venu très fort sur le devant de la scène électorale aux États-Unis. C'est pas du tout le cas en Israël, avec de très rares exceptions. Donc on a les partis, mais qui sont des partis, ils sont extrêmement petits, les partis de la gauche maintenant, donc Meretz et Avoda. Bon, eux, oui, ils portent ces sujets un peu plus. Un petit effort de la part de Yair Lapid au centre pour aussi amener ça un petit peu plus que cela était. C'est un sujet dans l'ensemble assez boudé. Il y a un travail assez remarquable que l'on fait, l'ensemble du mouvement vert en Israël, l'ensemble des organisations, pour interpeller l'ensemble des partis, donc Likoud, Yamina, tout le monde, Tikva, Hadasha, pour que tout le monde renforce, que ce soit un sujet plus présent. Mais dans l'ensemble, non. Et ce que je vous disais par rapport à des récents sondages qui ont été faits, quand on demande aux jeunes... essentiellement un public jeune, quelle est l'importance? Est-ce que le sujet de l'environnement est important pour vous comme sujet de choix du parti pour lequel vous avez voté? Dans la grande majorité, la réponse est non. Et finalement, c'est non dans des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'on constate dans les pays où des sondages similaires ont été faits. Mm-hmm. Donc, c'est assez inquiétant. On a une politique israélienne finalement qui tourne un peu en boucle Ça, on le constate de plusieurs angles. Et bien, l'environnement, c'est un des sujets qui, naturellement, en souffre.
Alors revenons à cet incident criminel, hein. Comme vous l'avez dit au début de notre entretien, ce n'est pas un accident non volontaire, c'est un accident volontaire, criminel. Est-ce que les deux questions qu'on se pose, c'est un, qu'est-ce que risque ce bateau si on arrive à les identifier et à les attraper, à les repérer, qu'est-ce qu'il risque comme peine, et secondo, au niveau des plages et des côtes israéliennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe des machines pour nettoyer l'eau, pour nettoyer les plages? Comment on va faire pour s'en sortir avec toute cette pollution?
Alors, au sujet de la question de la condamnation, il y a eu des cas, il y a notamment le cas, on s'en souvient, il y avait un capitaine ivre de l'Exxon Valdez en 89, je crois, en Alaska. Voilà, c'était un pétrolier entier qui avait déversé son contenu sur les côtes d'Alaska. Bon, finalement, il avait été condamné à la prison ferme. Donc, ça se joue à plusieurs niveaux. Ça va dépendre du pavillon que porte ce bateau, mais on va dire idéalement, si porte, on va dire, un pavillon étranger, ou obtenir l'extradition, les juger en Israël. Et il y a à la fois des dommages civils et une responsabilité pénale de ceux qui ont fait ça. Mmh. La responsabilité pénale, il est en cours de la prison, mais je ne peux pas vous dire exactement combien est-ce qu'ils en courent. Et la responsabilité civile, alors ça sera porté au niveau du dommage qui a été fait, et donc ça se comptera en probablement des centaines de millions de shekels. Hein. C'est-à-dire, c'est les efforts d'abord, c'est tous les efforts qui ont été entrepris et tout ce qui a coûté ces opérations de nettoyage sur lesquelles je vais parler vraiment dans un instant. Et également le dommage à la nature qui est toujours difficile à chiffrer. C'est parce que c'est inestimable. Mais on fait des tentatives pour le chiffrer en termes économiques très réducteurs. Par exemple, on dit que, ça a coûté une perte tourisme de temps, et puis comme ça on passe de domaine en domaine pour donner quelque chose qui est un petit peu très réducteur, encore une fois. Pour la question de faire en sorte que de nettoyer ça, votre question est tout à fait à propos. Alors effectivement, il existe des moyens technologiques qui permettent de maîtriser, on va reprendre ce mot très à la mode, de confiner la pollution. C'est coûteux, mais c'est assez simple, et c'est beaucoup moins coûteux que ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, c'est ce que la communauté verte, les organisations de protection de l'environnement, Greenpeace et d'autres, c'est ce qu'on réclame depuis maintenant des années. C'est très dur d'avancer sur ces sujets, mais en gros, c'est une surveillance satellite étroite qui permet de repérer en temps réel de tels événements quand ils se passent. Et puis, une force qui se met en place donc très rapidement et qui va venir et qui va mettre des boudins, vous savez, des boudins gonflables en pleine mer. Et puis, à ce moment-là, en pleine mer, on peut absorber la nappe, puisque c'est avant que dans le cas qui nous intéresse, présent, c'est une tempête, mais avant que la tempête ait tout dispersé, qui permet de repérer, de prendre ce pétrole. Ça, ce n'est pas fait, et ça aurait été facile relativement. Vous voyez, repérage satellite, des boudins gonflables qui confinent le pétrole, et puis venir et l'absorber sur place. Mmh. On s'en sort avec des dommages relativement corrects, on va dire. Ça n'a pas été le cas, et maintenant, il n'y a pas le choix. Il y a déjà 7000 volontaires qui ont été actifs jusqu'à présent, et il va y avoir besoin de l'aide de dizaines de milliers de volontaires dans les prochaines semaines pour venir à bout de cette pollution. Donc, c'est l'occasion d'appeler les auditeurs également à se joindre aux efforts, à chercher, par une recherche Google facile, on peut voir où et comment se mobiliser et se porter volontaire.
Comment on fait quelques cette heures recherche, sur un bord de mer. Jonathan, parce que c'est important pour nos auditeurs. J'imagine qu'ils sont nombreux à vouloir se joindre aux équipes de nettoyage, les gens pour qui c'est important l'environnement et les côtes israéliennes. Comment fait-on pour rejoindre ces équipes de nettoyage?
Oh, il n'y a pas de souci. Alors, si pour faire la recherche en français et pour trouver quelque chose en français, je vais faire l'effort d'écrire un post à la fin de notre entretien.
Formidable.
Et de le publier. Et je verrai à ce que. Et voilà, donc vous pourrez aussi le diffuser de votre côté. Et voilà, je pense comme ça, on va relayer l'information, on va faire en sorte que les auditeurs francophones aussi puissent se joindre. Il faut dire que faut quand même dire quelque chose de beau, quoi. C'est 7000 personnes en quelques jours. Il y a un élan de solidarité immense. Il y a un homme. quelque chose qui transcende comme ça, qui passe à travers tout le public israélien. Et par rapport à ça, alors c'est vrai que c'est triste et c'est très, on va dire, c'est pas sympathique d'aller quand même nettoyer ce goudron, mais c'est beau de se retrouver ensemble pour faire quelque chose de bien.
Tout à fait. Et vous pensez qu'on peut arriver au bout de cette pollution ?
Oui, absolument. En fin de compte, oui. Ça veut dire, il y aura des dommages, mais il y a encore plein d'animaux qui vont mourir. J'espère que d'abord, j'espère qu'il n'y a pas encore du pétrole qui va venir, et j'espère que les usines de dessalement sont en sécurité. Après, c'est une question de plusieurs semaines de travail. Des pollutions semblables, peut-être moins importantes, ont eu lieu. Je sais qu'il y a eu un cas dans le Var similaire. C'est pareil, c'était du goudron il y a 2 ans. Ça demande des semaines de travail. Ça demande des semaines de travail. C'est un travail, voilà, c'est d'arrache-pied. Ça se fait petit à petit pour enlever et enlever et enlever et enlever. Et à la fin, ça marche. À la fin, ça marche. Voilà, mais simplement par rapport aux dommages qui ont été causés à la faune et à la flore, eh bien une partie de ces dommages, malheureusement, sont difficilement réversibles.
Alors, on est en pleine campagne électorale, à un mois des élections à peine. C'est peut-être l'occasion justement d'interpeller les politiques pour, à l'occasion de ce gros problème, hein, de ce gros problème écologique. Est-ce que vous avez l'intention de le faire avec dans le cadre de Greenpeace ?
Oui, absolument. Alors là, d'année en année, alors ça se fait même dans un cadre plus large que Greenpeace, ça se fait dans le cadre, on va dire, de toutes les organisations. On a créé une organisation de campagne. On est plusieurs dizaines d'ONG, et on fait ça de manière très méthodique vis-à-vis de chaque parti, parce que c'est extrêmement important d'avoir plusieurs représentants dans tous les partis politiques. En fin de compte, on peut parfois être tenté de dire ou de présenter l'écologie et la protection de l'environnement et de la nature comme quelque chose de politique ou lié à la gauche. Il y a effectivement des différences entre les sensibilités de droite et de gauche, mais l'environnement, la nature, pas de carte chez aucun parti.
Et c'est essentiel pour nous tous.
Que l'on fait, et c'est essentiel pour nous tous. Et c'est une question de la qualité de la vie et de la vie elle-même. Le changement climatique, la crise climatique, c'est quelque chose qui menace l'équilibre du monde et qui cause des dégâts qui sont de plus en plus importants chaque année. Mmh. On le constate et on y fait face. On parle en Israël d'une élévation de la température d'un demi degré en 10 ans, tous les 10 ans. C'est énorme et ça cause des vagues de chaleur et ça cause des dommages en termes d'inondations qui sont de plus en plus importants. Alors pour faire face à ça, donc on s'est organisé pour aller voir chaque parti, pour interpeller chaque chef de parti, pour créer finalement un vrai lobby. Il faut que l'on fasse bon choix. Il faut se souvenir que derrière, c'est la vie, c'est la qualité de la vie. Mais c'est dans un monde qui adopte de plus en plus largement les énergies renouvelables, dans un monde qui change beaucoup et qui passe et qui comprend cette urgence. Eh bien, c'est l'occasion pour Israël également de voir s'ouvrir aussi des marchés et puis de suivre le mouvement, exactement.
Tout à fait. Merci beaucoup, Jonathan Eckenbaum. Je rappelle que vous êtes le directeur de Greenpeace Israël. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Vous venez d'écouter une émission de Can Israël dans le cadre du partenariat entre la radio Can Israël, la radio publique d'État israélienne et RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant notre application mobile.